Radio Prague, les informations.
Le Sénat a donné son aval au renforcement de la présence de l'armée tchèque en Afghanistan. La Chambre des députés a commencé à débattre du budget de l'État 2011. 9 morts dans un incendie à Prague. Le Sénat a adopté ce mercredi le projet gouvernemental relatif aux missions militaires à l'étranger jusqu'en 2013. 720 soldats tchèques seront donc en mission l'année prochaine en Afghanistan. Leur nombre sera réduit à 640 en 2012, la majorité d'entre eux opérant au sein de l'équipe de reconstruction basée dans la province de Logar. En revanche, les soldats tchèques se retireront progressivement du Kosovo. Le projet gouvernemental prévoit notamment l'envoi d'environ 200 soldats supplémentaires en Afghanistan en 2011. La Chambre des députés a commencé ce mercredi à débattre en première lecture du projet de budget de l'État pour 2011. En ouverture, le Premier ministre Petr Nečas a mis en garde les députés devant les risques que représente un éventuel rejet des différents projets du gouvernement visant à réaliser des économies. Le budget 2011 prévoit un déficit des finances publiques de 135 milliards de couronnes, soit 27 de moins que celui initialement prévu pour cette année. 9 personnes sont mortes dans l'incendie d'un bâtiment situé à proximité de la gare routière de Florence à Prague dans la nuit de mardi à mercredi. Il s'agit de l'un des incendies les plus tragiques de ces 20 dernières années en République tchèque. Les causes du déclenchement de l'incendie comme l'identité des victimes reste pour l'heure inconnue. Il s'agit cependant probablement de SDF qui avaient l'habitude d'y passer la nuit. L'ancienne secrétaire d'État américaine d'origine tchèque, Madeleine Albright, a présenté mardi dans une librairie du centre de Prague son dernier livre intitulé « Le langage secret des broches ». Dans cet ouvrage, sous-titré « Les histoires de mon coffret à bijoux », Madeleine Albright raconte comment ces broches sont devenues instruments de sa stratégie diplomatique. L'écrivain français Laurent Binet a présenté, quant à lui, toujours mardi à Prague, son livre HHHH. Le roman évoque l'attentat contre le protecteur du Reich en Bohême-Moravie, Reinhard Heydrich, chef de la Gestapo et des services secrets nazis. La traduction tchèque du livre a été publiée par la maison d'édition Academia. En France, le roman est sorti aux éditions Grasset et a remporté le prix Goncourt du premier roman. Le lancement du livre, qui s'est déroulé dans le café de la librairie Academia, et le débat qui s'en est suivi, ont attiré un grand intérêt. Laurent Binet s'est félicité de voir autant de visiteurs. Météo, malgré quelques nuages, notamment dans la moitié nord-ouest du pays, c'est un temps dans l'ensemble ensoleillé qui règne sur la majeure partie du territoire. Les températures diurnes se situent autour de 9 degrés pour les maximales. C'était le journal présenté par Alana Gebertova.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous. Voici le programme du jour. Un dissident cubain expulsé de son pays a trouvé refuge en République tchèque. Nous vous en dirons plus en début d'émission. Ensuite, cap sur Térésine, où un projet pédagogique a réuni des élèves français et tchèques autour de l'opéra pour enfants Brundibar. De la Deuxième Guerre, il en sera encore question en fin d'émission car Laurent Binet était à Prague. Il est l'auteur de HHHH, un roman qui raconte l'attentat contre le Reichsprotecteur de Bohême-Moravie par deux parachutistes tchécoslovaques. Le livre vient de sortir en tchèque, un programme très historique aujourd'hui donc, puisque ces faits et événements seront suivis de la rubrique Histoire. Bonne écoute à toutes et à tous. La République tchèque est devenue le deuxième pays de l'Union européenne, après l'Espagne, à accorder l'asile à un dissident cubain. Rolando Jiménez Posada est arrivé à Prague mardi. Plus d'informations avec Alexis Rosenzweig.
Rolando Jiménez Posada fait partie d'un groupe de prisonniers politiques récemment libérés par le régime cubain, à la condition qu'il quitte l'île communiste. Avocat de profession, Il avait été arrêté en 2003 avant d'écoper 3 ans plus tard de 12 ans de prison pour subversion. Des années de réclusion particulièrement difficiles qu'il a évoquées lors de son arrivée à Prague. On l'écoute.
Nous n'avons commis aucun crime et la seule chose pour laquelle nous nous sommes battus était nos droits. En prison, nous avons été traités de manière très brutale. J'ai passé 6 ans en isolement. Beaucoup ont été battus et détenus dans les mêmes conditions. Donc pour nous, le geste des autorités cubaines n'est pas un geste humanitaire, c'est plutôt la justice qui a enfin été rendue.
La République tchèque est l'un des pays de l'Union européenne les plus actifs dans la lutte contre les abus du régime castriste. Rolando Jiménez Posada y est arrivé avec son épouse, son frère, son fils et une nièce.
En juillet, mon épouse m'a parlé des démarches faites auprès de l'ambassade tchèque à La Havane et m'a annoncé que le gouvernement tchèque était prêt à nous accueillir si nous étions autorisés à partir. Dans notre famille, nous souffrons de troubles respiratoires. En prison, j'avais déjà reçu des médicaments fournis par l'intermédiaire de l'ambassade tchèque. Je savais qu'il nous aidait. Je suis reconnaissant envers le gouvernement tchèque pour l'aide qu'il apporte, non seulement à moi, mais aussi au peuple cubain.
À la situation que tu as vécue de Paul Rouen. Et Radek Jón, le ministre tchèque de l'Intérieur, a annoncé qu'un appartement avait été mis à la disposition de la famille en attendant que leur soit accordé l'asile.
J'ai juré à nos invités que la nation tchèque, qui se souvient du totalitarisme et de l'importance de la solidarité de pays étrangers avec ceux qui luttent, sera un bon hôte. Je m'attends à ce que l'accueil des prisonniers politiques cubains soit chaleureux. Je me suis excusé pour le froid. Ça, le gouvernement ne peut rien faire contre. Et eux m'ont dit que l'important, c'était les relations humaines.
Notons pour finir que la République tchèque s'est dite prête à accueillir 10 prisonniers politiques cubains.
Dans la suite de ce programme, nous partons à Térésine, dans le nord de la Bohême. Anna Kubishta était sur place avec un groupe de lycéens français et tchèques, réunis autour d'un projet inspiré de Brundibar, un opéra du compositeur juif Hans Krása, assassiné par les nazis.
Une journée de fin d'octobre, glaciale, grise, à Térésine. Une météo qui ne permet même pas d'imaginer les conditions dans lesquelles ont vécu les milliers de personnes internées dans le plus grand camp de concentration du protectorat de Bohême-Moravie pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est là qu'un groupe de lycéens français et tchèques se sont réunis pour une visite de l'ancien ghetto et du camp, comme l'explique Virginie, élève du lycée de Haguenau en France.
Alors nous sommes à Térésine et c'est pour un projet d'hommage à la pièce Brundibar et surtout aux enfants de Térésine. C'est une pièce où des enfants ont créé à Térésine qui retrace la demande de 2 enfants d'avoir du lait pour leur mère et tout le monde va leur tourner le dos, tous les enfants, et ce sera un chien, un oiseau et un chat qui viendront en aide justement à ces enfants. Et donc, pour dire qu'ils ont eu de la chance et qu'il y a de l'espoir dans la vie aussi.
Brundibar, opéra créé par le compositeur Hans Krása et dont le livret a été rédigé par l'écrivain Adolf Hofmeister. Brundibar, opéra d'enfants et pour les enfants, monté et joué au sein même du ghetto, malgré les vagues de déportation des enfants vers une mort certaine. Brundibar, qui fut présenté au comité de la Croix-Rouge en 1944, venu constater les conditions de vie dans le ghetto, repartit en n'ayant pas voulu voir que ce camp modèle des nazis n'était qu'un leurre. C'est autour de cette histoire incroyable que Michel Werner Jouard, CPE au lycée de Haguenau, a monté un projet pédagogique avec plusieurs autres professeurs, avec des élèves de première et terminale, tous volontaires. Recherche autour de l'opéra et de l'histoire du ghetto de Térésine, choix de poèmes, découverte du destin des enfants de Térésine dont il existe encore les dessins émouvants, comme l'a relevé Véronique Thiebold, professeure de français qui accompagne le groupe.
Les dessins, enfin ça c'est stupéfiant je trouve, ça laisse une trace et moi ce qui me frappe beaucoup dans les dessins qu'on en a vus aussi, c'est de constater qu'il y a des dessins qui ont des couleurs. Et ça, c'est quelque chose qui m'émeut particulièrement. Je trouve que c'est quand même paradoxal, extraordinaire, que malgré la noirceur de tout ce qui les a environnés, ces enfants-là, il y a toute une part de féerie, il y a toute une part de souvenir des temps où ils étaient heureux, qui transparaît. Et j'en reviens toujours à mon idée première, je dirais, c'est de penser que malgré tout, malgré toute l'horreur, malgré les mots qu'on peut prononcer, malgré les mots que l'on ne dira jamais, je crois qu'il y a une espèce de musique d'espérance, je ne sais pas comment dire, je crois que enfin, c'est ce que j'ai essayé moi avec mes élèves, mais par petites touches, de retrouver, de renouer, de leur transmettre.
Moment fort de la journée, la cérémonie où les élèves français et tchèques ont pu lire des poèmes, jouer de la musique, écouter des morceaux de Brundibar en mémoire des enfants de Térésine. Hasard ou destin, ils ont eu la chance de croiser sur place le chemin de Marta Kotova, 81 ans, internée à l'âge de 12 ans à Térésine, puis déportée à Auschwitz, où elle a survécu par miracle. À Térésine, elle n'a pas chanté Brundibar, mais a assisté à toutes les répétitions.
J'ai pleuré à l'époque et je vais encore pleurer aujourd'hui. Brundibar, c'est pour moi quelque chose que je n'oublierai jamais. C'est très dur d'en parler. Vous comprenez, c'est une berceuse. J'ai pleuré à l'époque parce que j'avais une maman, mais il y avait beaucoup d'enfants qui l'ont chantée et qui n'avaient plus de maman. Aujourd'hui, je vais encore pleurer parce que je me dis, de quel droit ai-je pu baigner mon fils, mes petits-enfants et même mon petit-fils maintenant, alors que ma mère ne m'a même pas vu grandir.
Pour Alexis, élève au lycée de Haguenau, la visite de Térésine est plus qu'impressionnante et Léa, quant à elle, n'a pas hésité pour participer au projet dès le début. On les écoute.
Je ne suis jamais allé dans un camp de concentration auparavant. Ça m'a profondément marqué. J'étais vraiment mal à l'aise à l'intérieur. Malgré tout, je pense que le fait qu'on visite ce genre d'endroit, ça pose les bases, ça montre que Térésine, c'était une horreur, certes, mais que ça appartient maintenant au passé. Certes, il ne faut pas oublier le passé, mais c'est le passé est la première pierre, la première brique d'une nouvelle construction, d'un avenir meilleur et fondé sur le respect des autres.
Quand j'ai vu le thème du projet, tout m'intéressait, donc voilà, j'avais envie de découvrir. Déjà, le fait que ce soit réalisé par des enfants, donc forcément, ça crée quelque chose qui est quand même plus émouvant. Et puis aussi, le fait que ça soit un peu une sorte de résistance par l'art, donc par la musique.
Et au commencement de ce séjour en République tchèque, qui se répète depuis déjà 5 ans, un jumelage entre les lycées de Haguenau et le lycée Porg à Prague, qui s'articule depuis le début autour de projets thématiques sur lesquels les élèves français travaillent avec leurs professeurs. Andrea Vichkova est professeure de français au lycée pragois. Elle rappelle l'origine de cette coopération.
J'ai cherché un lycée pour pouvoir faire un échange. Et Madame Werner du lycée de Haguenau cherchait quelqu'un pour faire un projet concernant le poète français Robert Desnos. Pour les Français, c'est toujours un échange plutôt culturel. Ils choisissent un projet et comme ça, on travaille après ensemble sur quelque chose. Là, cette année-là, c'est donc sur l'opéra Brundibar.
Alors si le séjour d'une semaine des élèves s'est achevé, ils repartent vers la France, remplis par le souvenir de la journée passée à Térésine. Pour certains d'ailleurs, le projet continue, comme Catherine, 16 ans, élève en première littéraire.
Donc pour le TPE, pour le bac plus tard, je dois choisir un sujet avec deux matières, soit l'art plat, soit l'histoire, soit la littérature. Et j'ai pris histoire et littérature. Et avec une amie, on va parler justement de Térésine et... Le projet, c'est Térésine, quelle image véhiculée, quelle réalité vécue. Et donc, c'est super intéressant de venir, justement, c'est pas que des recherches sur Internet, c'est vraiment du concret.
Un travail de mémoire, donc, qui se poursuit bien au-delà d'une simple visite.
HHHH. Derrière ce titre de roman qui peut susciter l'interrogation se cache un acronyme. Himmlers Hirn heißt Heydrich, soit le cerveau d'Himmler s'appelle Heydrich. C'est le nom du roman de Laurent Binet, Goncourt du premier roman 2010. Le livre sort en librairie en République tchèque. Je vous propose de réécouter une partie de l'interview qu'il avait accordée à Anna Kubista au printemps dernier.
Leur acte était un acte de courage et d'héroïsme invraisemblable et j'avais envie d'en savoir plus sur eux. Dès ce que j'en ai appris, c'était des jeunes gens très courageux, mais par ailleurs très sympathiques, très humains, très, très chaleureux, et enfin qui avaient une vie, qui étaient des héros d'une part, qui avaient une vie d'hommes tout à fait normal, qui avaient des petites amies d'autre part. Et je me suis évidemment, j'ai éprouvé beaucoup d'empathie pour eux, je me suis beaucoup attaché à eux, et puis en même temps, je suis aujourd'hui plus vieux qu'ils n'étaient quand eux sont morts, et ils sont morts alors qu'ils étaient plus jeunes que je le suis aujourd'hui, mais j'éprouve beaucoup de respect, d'admiration pour ces jeunes gens, quoi, qui ont accompli cet acte de façon, avec beaucoup de simplicité, j'ai l'impression.
C'était l'écrivain Laurent Binet, retrouvé le vendredi, plus en détail sur les derniers dénouements suscités par la publication de son livre. C'est la fin des faits et événements, mais tout de suite la rubrique historique. Le 28 octobre 1918, date de la création de la République tchécoslovaque, dont nous commémorons ce jeudi le 92e anniversaire, est le synonyme du combat des légions tchécoslovaques en Russie, en France et en Italie. Il est le synonyme des efforts politiques et diplomatiques des hommes de la Première République, Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš, Milan Rastislav Štefánik, Karel Kramáš et Alois Rašín. Le 28 octobre 1918 en a moins aussi ses femmes, Alice Masaryková, Hanna Benešová, Františka Zeminová, Karla Máchová. Et c'est à elle que Jarka Gisiblová a consacré ce magazine historique.
Chapitre de l'histoire.
Dans l'Autriche-Hongrie de la fin du XIXe siècle, l'engagement des femmes dans la vie sociale et politique est très limité. En aucun cas, l'activité publique des femmes n'est considérée comme une activité politique, ces dernières étant interdites par la loi. L'activité publique consiste le plus souvent dans diverses activités de bienfaisance et dans le travail social. Une riche vie associative se développe en Autriche-Hongrie depuis les années 1860, grâce surtout à Vojtana Prstek, mécène et patriote qui crée à Prague le club américain des dames. Même si la politique est un tabou pour les femmes, le début du XXe siècle est déjà lié à quelques noms de pionnières des femmes politiciennes en pays tchèque, l'historienne Dana Musilová de l'Université de Hradec Králové.
Au sein du Parti social-démocrate, c'est Karla Máchová, institutrice, journaliste et première intellectuelle dans ce parti. Karla Máchová est pionnière du mouvement social-démocrate féminin. Aux États-Unis, où elle part, elle collabore avec le mouvement des compatriotes tchèques et fonde un journal pour les femmes, Ženské listy. Amie très proche de Charlotte Masaryk, elle milite en faveur du droit de vote des femmes et devient la première femme candidate à l'Assemblée nationale des pays tchèques. Un autre nom parmi les premières femmes politiciennes est celui de Františka Zeminová. Le parti national socialiste auquel elle adhère en 1897 sera interdit après le coup d'état communiste de février 1948. Mais le pire dans sa vie se produira un an plus tard. Františka Zeminová est condamnée à 20 ans de prison dans un procès politique, le même qui a abouti à la condamnation à mort de Milada Horáková. À juste titre, Františka Zeminová est considérée comme la première politicienne professionnelle dans notre pays. Car dès que l'occasion s'est présentée, en 1918, elle a quitté son poste de comptable dans une librairie pour se consacrer entièrement à la vie politique.
Une autre femme engagée dans les affaires publiques et politiques déjà avant la Première Guerre mondiale, Božena Viková Kunětická, femme écrivain, dramaturge, est la toute première politicienne tchèque élue au Parlement austro-hongrois pour le Parti des Jeunes Tchèques. En 1918, elle devient députée. Pendant une courte durée, elle occupe également un siège au Sénat. Lorsque la guerre éclate en 1914, la situation des femmes se complique. Elles doivent remplacer les hommes dans les usines et se charger entièrement de l'approvisionnement en denrées des familles. Le rôle des femmes politiciennes dans cette période augmente.
Františka
Zeminová n'a jamais abandonné son engagement à travailler contre l'Autriche-Hongrie. Interdite de séjour à Prague, elle a continué ses activités à la campagne. Plusieurs femmes, dont Hanna Benešová et Alice Masarykova, ont été incarcérées, alors que leur proche, Edouard Beneš, époux de Hanna, et Tomáš Garrigue Masaryk, père d'Alice, étaient en exil à l'étranger, où ils œuvraient en vue de la création d'un État indépendant. Les deux femmes ont purgé leur peine pour leurs proches. Néanmoins, Alice Masarykova était elle-même membre active de la résistance et du mouvement féminin déjà avant la guerre.
Kromě toho ona se angažovala tady v odboji v ženském hnutí před první světovou válkou.
Parlant du rôle des femmes lors des événements bouleversants de la création de la première République tchécoslovaque sur les ruines de l'Autriche-Hongrie, Dana Musilova souligne que le principal dans ce rôle était le travail quotidien des femmes anonymes dont on ne connaît pas le nom, seulement leur visage sur les photos qui les saisissent en train de faire la queue pendant des heures pour acheter du pain. Ce sont ces femmes anonymes qui ont manifesté contre l'exportation des aliments sur le front et qui ont apporté un soutien aux familles des personnes emprisonnées.
Platí-li to, co se říká o francouzské revoluci, že začala ve frontách na chleba?
S'il est vrai ce qu'on dit de la révolution française, à savoir qu'elle a débuté dans les queues pour acheter du pain lorsque Paris était mal ravitaillé, alors ces propos prennent tout leur sens au moment où on voudrait faire une analogie avec les femmes engagées lors de la Première Guerre mondiale. Alice Masarykova, Františka Zeminová ou encore Luisa Landová-Štychová, journaliste et future députée du Parti socialiste tchécoslovaque, participante active à la vie politique déjà avant la guerre et qui n'a pas cessé ses activités pendant la guerre non plus.
Velmi výrazně angažovala politicky už před válkou a neopustila ani za války tuto angažovanost.
Les femmes installées avant la guerre à l'étranger, aux États-Unis notamment, ont apporté elles aussi une contribution marquante à la création de la première République tchécoslovaque. À Washington, où la déclaration de Washington consacrant la naissance d'un nouvel État indépendant était conçue avant d'être rendue publique à Paris le 18 octobre 1918, une exposition intitulée « Les femmes, messagères révolutionnaires » vient de commencer. Elle rend hommage aux femmes qui ont collaboré avec Tomáš Garrigue Masaryk en exil, sans que leur mérite ait été connu du large public. L'une de ces femmes, Marie Kvitchalova, est partie en 1916 des États-Unis en Europe avec des documents confidentiels. Arrêtée à Londres, conformément à un accord préalable, elle a passé une semaine dans l'appartement londonien de Masaryk pour apprendre par cœur le contenu de ces documents destinés au milieu de résistance en Bohême. La police les soupçonnait moins que les hommes, qui risquent en plus d'être appelés sous les drapeaux à leur retour dans la monarchie. La célèbre cantatrice Emma Destinova, entrée dès 1909 au Metropolitan Opera de New York, figure aussi parmi ces femmes. L'écrivain Karel Patzner rappelle la mission de cette cantatrice dont la carrière a été brisée par la Première Guerre mondiale.
Emma Destinova, třeba že měla
Emma Destinová, bien que munie d'une lettre personnelle de l'empereur Guillaume d'Allemagne, qui l'aimait et admirait, a été arrêtée par les autorités autrichiennes et soupçonnée d'espionnage. Privée de passeport, elle a été internée dans son manoir à Straž nad Nežárkou, en Bohême du Sud.
L'émission de Radio Prague en langue française est maintenant terminée. Merci de votre attention et de votre fidélité à Radio Prague. Au revoir et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos programmes sur www.radio.cz/fr.
En su receptor Radio Praga, emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone su primera emisión para España a las 8 horas UTC, tiempo universal coordinado, por las frecuencias de 11.600 kHz. A las 14 horas UTC transmitimos para España por los 11.720 kHz. A las 18 y 19 horas UTC los oyentes españoles nos pueden sintonizar por 5.930 kHz. Radio Praga transmite a las 20:30 horas UTC para España y América Latina por los 5.930 kHz. Los oyentes latinoamericanos nos pueden sintonizar a las 23 horas UTC por las frecuencias de 9.440 kHz. A las 0 horas UTC salimos al aire por los 9.445 kHz a través de la repetidora en la Isla Ascensión. A las 0.30 horas UTC los radioescuchas de Centro y Sudamérica nos pueden sintonizar por los 9.790 kHz.